L'ampleur du projet m'a frappé quand, quelques semaines plus tard, notre premier client, General Electric, m'a contacté et m'a dit « je veux vous payer en fait pour que vous développiez encore plus la plateforme ».
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 81e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook, en gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois. G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. L'entretien d'aujourd'hui est fait avec un des entrepreneurs les plus humbles que j'ai pu rencontrer. Sylvain Perron, fondateur de la plateforme technologique BudPress, est avec nous aujourd'hui afin de nous raconter comment, par hasard, il a fondé une entreprise qui travaille avec des clients comme Zoom, Kia, Zoho, KPMG, EA Sports et j'en passe. En l'espace de quelques années seulement, Sylvain a transformé une équipe de développeurs qui à la base était grandement composée de ses amis proches à une entreprise qui vient de lever plus de 15 millions de dollars et qui s'apprête à engager plus d'une quarantaine de nouvelles personnes. En bonus, Sylvain nous partage à la fin de l'entretien ses trucs et astuces assez atypiques qui l'aident à rester productif. Sans plus attendre, ma discussion avec Sylvain Perron. Sylvain Perron, tu es le président et fondateur de l'entreprise BudPress, une entreprise technologique située à Québec. Votre plateforme open source, qui est maintenant utilisée par plus de 100 000 développeurs à travers le monde, a attiré les yeux des investisseurs récemment, où vous avez été capable de lever 15 millions de dollars US lors de votre série A. Sylvain Perron, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci Antoine, je suis content d'être ici.
Sylvain, j'aime toujours commencer mes entretiens en comprenant comment l'entreprise a été lancée à ses débuts. Puis, on avait une discussion, toi et moi, la semaine dernière. Et j'ai cru m'apercevoir que l'histoire derrière la fondation de BudPress part d'un enjeu que t'as encerclé lors de ton dernier emploi. Peux-tu partager avec nous aujourd'hui comment t'as lancé l'entreprise en 2017?
Oui, dans le fond, moi, c'est un parcours un peu spécial là, parce que je vais faire une histoire courte, mais moi, je suis quelqu'un de technique. J'ai commencé à programmer, je devais avoir 10 ans. En fait, j'ai reçu mon premier ordinateur là à l'année 2000, puis je connaissais absolument rien. C'était ma première expérience avec un ordinateur. Puis il y avait un jeu de préinstallé sur l'ordinateur qui s'appelle Bulldozer. Puis pour ceux qui se rappellent, là, si vous êtes assez vieux pour ça, mais c'est un jeu où est-ce que tu dois pousser des roches, tu es un bulldozer, tu dois pousser des roches dans un labyrinthe pour atteindre la fin du niveau. Puis moi, écoute, je suis tellement sur ce jeu-là, je trouvais ça malade, mais j'ai atteint la fin du jeu assez rapidement, après quelques jours, là, puis j'étais forgé. Et j'étais comme, OK, mais moi, je veux continuer à jouer. Comment je fais pour continuer à jouer, tu sais? Puis je me suis renseigné, Google, je pense qu'il existait même pas. Je pense que c'était sur Alta Vista. J'ai fait des recherches. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait du monde qui programmait des ordinateurs puis que c'était des humains qui avaient créé le jeu, tu sais. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis j'ai pris mon vélo. J'étais allé à la librairie, à la bibliothèque, dans le fond, de la ville au lac Saint-Jean où j'habitais. Puis j'ai loué mon premier livre de programmation, puis fouille-moi pourquoi, là, je sais pas pourquoi il y avait un livre de programmation dans cette petite ville-là, mais c'est un livre de C++. Fait que j'ai appris le C++, j'avais 10 ans, j'ai appris à programmer, puis à créer à me faire des niveaux de plus, dans le fond, à ce jeu-là. Puis c'est là où j'ai eu la piqûre un peu, si tu veux, pas entrepreneuriale, mais la piqûre de « je peux utiliser les ordinateurs, je peux écrire du code » pour résoudre des problèmes que j'ai sans que ça me coûte quoi que ce soit. Tout ce que j'ai besoin, c'est de lire des livres, d'apprendre, puis je peux créer, puis je peux changer le monde à ma manière, tu sais. Fait que c'est là où j'ai eu la piqûre. Puis Dans le fond, ça m'a amené évidemment à aller en informatique. J'ai débuté des études à l'Université Laval en génie logiciel que éventuellement j'ai abandonné parce que j'étais dans les dettes, puis c'était l'année où ce que Google a dit hey, t'as plus besoin de papier là pour rentrer chez Google, on s'en fout que t'aies un bac ou que t'aies juste un secondaire, on engage des gens compétents. Fait que moi j'ai décidé, check, ça c'est mon cue. je m'en vais de l'université, je m'en vais sur le marché du travail, puis j'ai joint cette compagnie là qui s'appelle Protorisk. C'est en fait une firme de gestion de risque là, pour les banques, qui est à Londres et à Dubaï. Pour faire une histoire courte, j'ai commencé vraiment au bas de l'échelle, j'étais junior, junior développeur, après ça j'étais allé senior, après ça je suis devenu chef d'ingénierie. Puis essentiellement le problème que je rencontrais toujours, c'est que ce logiciel-là qui est pour les banques, qui est pour les banquiers, est très difficile à utiliser. C'est comme un Excel, mais version compliquée, tu sais. Puis ces banquiers-là l'utilisaient pas chaque jour. Puis moi, je me ramassais toujours avec des questions de ces banquiers-là qui disaient « Hey, comment je fais pour faire ci? Comment je fais pour faire ça? » Puis c'est pas quelque chose qu'on aurait pu résoudre avec une FAQ, les questions fréquemment posées, parce que c'était des questions tout le temps différentes. Fait que je me suis dit « Crime! » Moi, je me sens comme une machine en ce moment. Je lis ces messages-là, puis je le fais à leur place. Pourquoi je serais pas capable de créer une machine qui lit ces messages-là, qui lit les mots puis qui les traduit en action à ma place? Donc, c'est un peu ça qui a débuté l'idée de créer, si on veut, des chatbots. Puis ça, c'était en 2015, c'était avant que les chatbots soient populaires. Donc, c'était une idée assez innovatrice, si on veut, de mettre ça dans un logiciel comme interface utilisateur principale. Puis c'est un problème qui n'était pas réglé, fait qu'il a fallu que je crée ma propre solution, si on veut. C'est un peu plus compliqué que ça, là, mais tu sais, en gros, en 2017, les chatbots sont devenus populaires. On a décidé de mettre sur GitHub, qui est l'équivalent de Facebook, là, mais pour les développeurs. On a mis ça sur GitHub. Quelques jours plus tard, des milliers de développeurs ont liké, si tu veux, là, ont mis des étoiles, dans le fond, à notre repo. Puis, c'est là où ce que j'ai vu, OK, il y a vraiment du potentiel pour ça. Le monde aime ce qu'on a développé. Puis l'ampleur du projet m'a frappé quand, quelques semaines plus tard, notre premier client, General Electric, m'a contacté puis m'a dit « je veux vous payer en fait pour que vous développiez encore plus la plateforme, pour que vous me donniez du support et tout ». Donc, c'est là où ce que c'est devenu une compagnie.
Puis je suis curieux, quand tu as lancé ça là, sur GitHub, rapidement, là, dès les premières semaines, tu as eu quoi, des centaines, des milliers de personnes qui t'envoyaient des commentaires, qui utilisaient le tout. Comment ça s'est déroulé un peu, là?
Ben, c'est ça. T'sais, nous autres, on l'a mis sur GitHub. Évidemment, on avait toujours l'intention de peut-être éventuellement faire une compagnie avec ça, mais c'était pas clair c'était quoi ça pourrait être quoi la compagnie. Fait qu'on s'est dit, check, on va le mettre sur GitHub, on va voir ce qui arrive, on va essayer de générer un peu de buzz, de hype autour de ça. Puis effectivement, des milliers de développeurs, c'était comme, je pense que c'était de la chance, honnêtement, parce que c'était comme le bon produit au bon moment, parce que après que nous, on l'ait fait, tu sais, en fait, je pense que quelques mois avant, quelques mois plus tard, ça n'aurait pas fait. C'était vraiment ce moment-là qu'il fallait lancer ça. C'était là où ce que les premiers développeurs commençaient à s'intéresser. Ils cherchaient la suite d'outils qui n'existaient pas, en fait. Puis, tu sais, quelques mois plus tard, il y a plein de monde là, qui ont sorti des pas des alternatives, mais des projets comme BotPress. Puis, tu sais, les géants sont arrivés, là, tu sais, Google, Microsoft, IBM sont arrivés avec leur propre offre aussi. Là, fait que c'était un bon timing, je pense.
Puis, ça a été quoi ton modèle d'affaires à ce moment-là quand General Electric te contacte? Vous vendez des banques d'heures? Vous faites quoi là, pour commencer un petit peu à lancer l'entreprise?
Ah, écoute, on n'en avait pas. Là. C'était plus check, CG. Fait qu'on va prendre l'appel puis on va travailler pour eux autres. Là. Fait que pendant environ un an, tu sais, on a écouté les besoins de GE, on a développé ce qu'ils voulaient. C'était vraiment de la collaboration. Là, fait que c'était... Écoute, je pense qu'ils nous ont donné 10 000 piastres. Là. C'était rien. Ça n'a même pas, en fait, ça n'a même pas payé les frais d'avocat pour réviser le contrat. On n'a pas fait d'argent avec ça. Mais c'était une bonne expérience de dire, ben, on est capable de combler les besoins de General Electric. T'sais. Puis une fois qu'on a réopen sourcé, dans le fond, les changements qu'on a fait pour GE, ben là, on a eu encore des plus gros clients quelques-uns que je peux pas mentionner cette fois-là, là, mais tu sais, d'autres fortunes 500, même des fortunes 50, puis là, j'étais comme, OK, on a quelque chose là, ici.
Ça doit être excitant tout ça, là, de travailler dès le départ, parce que ça a été ta première entreprise que tu as lancée, ça, Sylvain, juste pour être certain.
Ouais.
Puis, bon, quand c'est ta première entreprise, travailler déjà avec des géants mondiaux, ça doit quand même être excitant, puis ça doit te donner un certain sentiment de confiance, tout ça.
C'est un bon indicatif que tu travailles sur quelque chose qui est pertinent. Ouais. tu sais, d'avoir un GE qui s'intéresse à ce que tu fais, c'est une belle validation, si on peut dire.
Puis, bon, on a reçu sur l'épisode, il y a quelques temps de ça maintenant, c'était au 62e épisode, Étienne Mérineau, cofondateur de l'entreprise AD, là, qui se spécialise dans la conception de chatbots conversationnels. Et pour situer l'audience un petit peu, pourrais-tu expliquer fondamentalement la distinction entre ton organisation et celle de AD pour que les gens puissent bien comprendre la différence entre les deux?
Ouais, puis c'est drôle, tu me parles d'Étienne. Justement, tu sais, dans nos débuts, on a pas mal lancé nos compagnies en même temps, là. Mais ce que AD fait, puis j'espère pas trop déformer, là, c'est quoi leur business model, mais AD applique le conversational AI, dans le fond, la technologie conversationnelle, il l'applique à un cas d'usage précis pour un vertical précis, qui est tant qu'à moi un modèle d'affaires qui est beaucoup plus sain d'esprit et bien moins risqué que BotPress. Là. C'est une excellente approche, mais BotPress, on développe l'infrastructure derrière. Donc, le moteur conversationnel pour permettre à des compagnies comme AD justement de créer des solutions commerciales spécifiques sans avoir besoin d'engager une centaine de développeurs en arrière puis des PhD en machine learning puis en AI pour justement comme comprendre les conversations. Tu sais, ça prend quelqu'un qui fournit l'infrastructure. Si on prend un exemple concret, là, pour mettre un peu peut-être l'audience dans des termes qui comprennent un petit peu plus, tu sais, si on pense aux jeux vidéo, la plupart des jeux vidéo sont créés par des compagnies de, tu sais, comme mettons Ubisoft. Mais Ubisoft, tu sais, utilise en arrière, ils créent pas tout from scratch. Tu sais, ils utilisent de quoi? Ils utilisent l'infrastructure qui a déjà été créée par quelqu'un d'autre. Puis ils utilisent, tu sais, la plupart des compagnies utilisent soit Unreal Engine ou Unity. Ils ont pas mal 50-50% des market shares. Mais ça, c'est des moteurs de jeux vidéo que tu utilises pour créer des jeux vidéo. Puis tu peux très bien construire une compagnie on top of Unreal Engine. C'est la seule saine chose à faire. Mais tu sais, le marché des chatbots, du conversational AI, c'est un marché de 50 milliards de dollars en 2027. Ça serait insane que toutes les compagnies qui vont se lancer là-dedans recréent toute l'infrastructure qu'on est en train de faire à partir de zéro.
Êtes-vous des collaborateurs tant qu'à être là? Parce que là, j'ai l'impression que c'est ça, tout ça est complémentaire. Ils peuvent utiliser votre technologie pour aider leurs clients?
Ben éventuellement, c'est ce que j'aimerais, oui, tu sais, que les AD de ce monde, que les ADA, tu sais, que les Moveworks utilisent BotPress, effectivement.
OK. Donc, ça pourrait être quelque chose pour la suite, pour l'avenir de BotPress. Puis, bon, il y a une chose qui était assez fascinante également dans nos discussions, Sylvain, c'est que tu me disais, il y a quelques jours de ça, la job d'un vendeur chez nous, c'est simple, il répond au téléphone. OK, mais blague à part, là, tout ce que je veux dire, c'est que on a l'impression, puis de ce que tu me dis, puis de ce que je lis sur Internet, que vous avez créé un buzz là autour de votre entreprise qui fait en sorte que tous les clients voulant travailler avec vous sont venus littéralement à vous. Vous n'avez pas eu à les chasser, il n'y a pas eu d'effort de démarchage, il n'y a pas eu d'initiative au développement des affaires pour aller chercher de la clientèle. Ces clients-là sont venus à vous. Comment t'expliques un engouement comme ça et comment t'expliques que cet engouement-là perdure à travers le temps? Parce que des fois, on peut être la saveur du moment, mais ça a une date de péremption. Là, on a l'impression que ça continue à s'accélérer de votre côté.
Oui, puis je vais juste rectifier. Là, c'est pas nécessairement facile de vendre chez BotPress. Là, je pense que mes vendeurs me tueraient, mais s'ils écoutaient ça. Mais blague à part, là, c'est... Tu sais, nous autres, c'est vraiment, c'est dans notre business model, tu sais, on est open source, ce qui veut dire que pour les développeurs, on est gratuit, notre code est disponible, c'est notre moyen de faire du marketing, tu sais, puis comme je disais tantôt, on a eu bon produit au bon moment, puis ça a lancé un flywheel qui est très difficile à arrêter, parce que notre modèle, c'est qu'on est gratuit pour 99,9% des gens. On vise uniquement les compagnies qui font plus d'un milliard de revenus initialement. Puis ça, c'est voulu. Tu sais, on est niché on purpose parce que c'est ce qui va faire que 99,9% du monde vont devenir des évangélistes, ils vont devenir des adopteurs, ils vont même devenir des contributeurs, ils vont nous aider à améliorer la plateforme. Puis tant que la grande majorité du monde aime et propulse BotPress, ça va rester le projet, la compagnie numéro un dans le space. C'est un peu ça notre avantage compétitif qui est unfair. Tu sais, la communauté fait partie de notre DNA, mais c'est aussi parce que, tu sais, évidemment, on a le meilleur produit pour les devs. Mais ceci étant dit, c'est pas toute rose. Tu sais, c'est pas pas à payer une scène pour l'acquisition de clients. Ça peut sembler être une bonne idée et de quoi d'attrayant, mais tu sais. Je vais te donner un exemple. RBC nous a appelé l'autre fois puis il nous a dit on veut une licence. Ça fait un an qu'on utilise BotPress. Puis moi j'étais quoi? Ça fait un an que tu l'utilises puis on savait même pas. Tu sais, on n'était même pas au courant. T'aurais pu nous appeler avant. Tu sais, on t'aurait aidé, on t'aurait donné des ressources. Mais tout ça pour dire que c'est le coût de marketing. Souvent, on va regarder, tu sais, ton CAC puis tu vas dire ouais, ton CAC est vraiment élevé. Mais souvent, quand ton CAC est élevé, ça veut dire que tu contrôles plus ton cycle de vente, tu contrôles plus ta génération de demande. Parce que ça veut probablement dire que tu as 10 personnes au développement des affaires qui font 100 appels par jour, puis tu sais que si tu en mets 20, ils vont faire, tu sais, deux fois plus d'appels par jour. Donc, nécessairement, tu devrais avoir plus ou moins deux fois plus de clients qui rentrent dans ton pipeline. Nous autres, c'est pas ça. Notre coût de marketing est très, très, très bas, pour pas dire zéro. Fait qu'on contrôle très difficilement qui et pourquoi nous contactent pour des ventes. T'sais, fait qu'on va, effectivement, on va pallier ce problème-là prochainement parce que notre but n'était pas de générer plus de ventes. Notre problème, c'était d'être capable de scaler pour être capable de prendre les appels qui rentraient. Fait que on va faire du outbound prochainement, mais c'est ça.
OK, donc il y avait peut-être des enjeux de capacité à regarder avant de retravailler le développement d'affaires, mais j'aimerais revenir au point que tu as dit qu'il y a des évangélistes, il y a la masse qui suit BotPress, puis éventuellement, ben parmi cette masse-là, il y a peut-être un ou deux développeurs qui travaillent dans une organisation qui fait 1 milliard de revenus et qui, là, vous contacte. C'est-tu un petit peu ça qui se déroule? Donc, vous parlez à tellement de gens qu'à un moment donné, il y a du diamond in the rock dans ces développeurs-là qui travaillent pour cette grosse entreprise-là. Et là, l'appel de vente en découle et une licence se vend et un nouveau gros contrat arrive pour BotPress.
C'est 100% ça. C'est précisément ça qui se passe. Fait que tu peux t'imaginer que tu espères à un moment donné qu'il y ait un diamond in the rock. Ouais.
Mais c'est intéressant parce que de travailler avec... Il y a beaucoup d'organisations comme ça qui vendent des produits excessivement niche, mais paradoxalement, en vendant un produit excessivement niche, leur manière de faire du marketing, c'est de s'adresser à la masse pour qu'éventuellement, ben, dans cette masse-là, il y a des gens qui travaillent pour certaines organisations. Donc, on donne, et éventuellement, certaines personnes à l'intérieur de ce groupe-là vont venir à nous sans vouloir faire de mauvaises comparaisons. Chez J7 Media, on fait beaucoup de contenu, on fait des podcasts et tout ça. On donne énormément d'informations à notre clientèle sur nos 3 différents podcasts. Et ben, m'amener dans cette communauté-là, il y a des gens qui ont des organisations qui fitteraient avec la nôtre pour un partenariat. Donc, une transaction peut s'en suivre. Donc, sans faire de mauvaises comparaisons, on se rend compte que des fois, travailler avec une clientèle niche ne veut pas nécessairement dire de faire 100% un marketing de niche. C'est ça le paradoxe que je trouve intéressant là, avec BotPress ici.
Exactement. Donc, on donne de quoi gratuitement à beaucoup de gens en espérant que quelques-uns là-dedans travaillent dans des fortunes 500. Puis, tu sais, ça ne nous empêche pas pour plus tard de faire des... tu sais, d'aller down market avec des produits, des offres qui s'adressent à des PME puis qui s'adressent même aux développeurs, etc. Mais on voulait pas commencer à... On voulait être focus, si on veut, sur vertical, sur un type de persona précis dans les fortunes 500. On a développé notre offre autour d'eux autres. En attendant, dans le fond, d'avoir le bon, tu sais, d'avoir les bonnes ressources, d'avoir les bonnes parts du marché, d'avoir des fondations solides pour aller dans le market.
Ben, c'est souvent une très bonne manière de faire. On commence avec un focus, puis par la suite, si on est capable de prendre une certaine part de marché, on décline sur d'autres endroits. J'aimerais revenir, on l'a dit un petit peu plus tôt, il y avait peut-être des enjeux de capacité à régler avant de retourner au niveau du développement d'affaires. J'imagine que tout ça va être, ou du moins on a un plan pour régler ces différents enjeux-là avec la dernière ronde de financement que vous avez faite, qui a été de 15 millions de dollars de US, comme j'ai dit un petit peu plus tôt dans l'intro. Félicitations d'ailleurs. C'est un bel accomplissement. accomplissement, mais c'est surtout une étape. Hein? C'est surtout une étape dans un développement d'organisation. Faut pas voir ça comme une fin. Au contraire, ce n'est que le début. Maintenant, j'aimerais ça te poser une question qui me trotte très souvent dans la tête quand j'interviewe certains de mes invités qui, un petit peu comme toi, ont été capables de lever des sommes importantes. Comment tu te sens quand tu fais une ronde comme ça et quand cette ronde-là, tu reçois l'argent? Est-ce que c'est davantage un sentiment de devoir accompli? Est-ce que c'est un stress que tu as de dire, là, il y a des gens qui comptent sur moi, mais au-delà de compter sur moi, ils m'ont donné des sous, je dois livrer la marchandise? Comment un fondateur se sent après recevoir autant d'argent et avoir maintenant des grandes responsabilités autour de ça?
Ben moi, je me suis excité, en fait, puis soulagé, puis j'explique pourquoi soulagé. lever une ronde de même, ça se fait pas en claquant des doigts. C'était épuisant pendant pendant 2-3 mois. C'était un job temps plein, littéralement. Puis, tu sais, tu te lèves à 8h le matin, tu finis à 8h le soir, tu as eu, je sais pas moi, 10-15 meetings dans ta journée, back-à-back, pas le temps de manger, pas le temps d'aller aux toilettes. Tu sais, c'est super, super. Ça met beaucoup de stress sur ton corps. Puis après ça, quand tu as fini tes meetings, il faut que tu révises ton deck, il faut que tu révises, il faut que tu construises plus d'assets. Puis en plus de ça, il faut que tu gères la compagnie. Fait que c'était plus un soulagement, si je peux te dire. Je suis pas content d'avoir raisé. Je veux dire, c'est juste un. Tu sais, pour moi, l'argent, c'est une ressource. Là. C'est pas une motivation. C'est une ressource. Je vois ça un peu comme du gaz. Tu sais, que tu mets dans ta voiture, c'est pour te rendre à ta prochaine destination. Fait que, tu sais, moi, je me sens un peu comme quand tu viens de remplir ta voiture de gaz avant de partir pour un road trip. C'est un road trip qui va être le fun, mais on a d'autres postes d'essence à faire. Puis on a, je veux dire, l'objectif, c'est de se rendre à destination et pas de remplir ta voiture.
Puis là, ça dit avoir un 15 millions de dollars en ronde de financement, ça dit un changement d'environnement. Donc, c'est intéressant parce que je pense que dans une industrie comme la vôtre, la main-d'œuvre est excessivement spécialisée, pas nécessairement facile à trouver. Et ce que j'ai cru comprendre, là, Sylvain, puis corrige-moi si je me trompe, je pense que beaucoup des employés qui travaillent dans l'organisation depuis un certain temps maintenant sont des connaissances à toi ou du moins des gens que tu avais pu collaborer dans le passé qui se sont joints à l'aventure. Là, maintenant, je crois que tu as énormément de postes d'ouvert, donc il va falloir que tu sois, que tu cherches des gens à l'extérieur de ton réseau. Comment ça se déroule, là, ce recrutement-là, présentement? Comment vous y prenez pour aller chercher ces ressources disponibles-là qui, on espère, vont être aussi talentueuses que celles que vous avez présentement?
Ouais, c'est une bonne question. Effectivement, j'ai engagé principalement mes connaissances, mes amis. Mais tu sais, là, on a 41 postes d'ouvert en ce moment. 90%, c'est des postes d'ingénierie. Tu sais, moi, dans nos valeurs, là, une de nos valeurs, c'est « be the best ». Tu sais, puis j'ai checké dans mon réseau autour de moi, j'ai dit « c'est qui les meilleurs? C'est qui sont les perles rares? » Puis c'est ce qu'on demande aux autres. Parce que, tu sais, moi, un de mes amis proches que j'ai engagé, ben lui, il y a d'autres amis que moi, j'ai pas nécessairement. Mm-hmm. Puis lui, il cherche the best aussi. Il cherche aussi la perle rare. Fait que ça, c'est un des moyens. Je veux dire, tu peux étendre en engageant des gens. Tu sais, c'est ton cercle de connaissances. Puis c'est un peu similaire à Facebook, là, tu sais, comment ça marche, ou LinkedIn. Tu as une connexion, tu sais, de niveau 2 ou de niveau 3. Ça, c'est une première chose. Une deuxième technique qu'on a utilisée, tu sais, on l'a fait à deux reprises, mais on a embauché des gens de notre communauté. Puis des fois même, littéralement, des gens de chez nos clients, quand on voit qu'ils sont très bons, tu sais, nous autres, on a des centaines de milliers de développeurs qui utilisent WordPress. Mm-hmm. On a une communauté, on a un forum, on les voit les bons. Fait que, tu sais, quand on voit qu'ils sont bons, on les engage. On a engagé quelqu'un au Zimbabwe, on a engagé quelqu'un au Brésil. Tu sais, on est distribué, fait qu'on n'est pas, contraint par des barrières physiques. Mm-hmm. Tu sais, puis... Je pense qu'aussi d'être dans l'environnement COVID, là, ça aide à ça, tu sais, ça nous a permis de créer la compagnie distribuée remote first. Fait que ça, c'est super, je veux dire, c'est un gros avantage parce que de faire le contraire, c'est des fois un petit peu plus dur. Puis tu sais, je pense qu'on a vraiment, pour les ingénieurs, là, à Québec, même au Québec, on est une des rares compagnies qui vont être vraiment, vraiment le fun pour les développeurs. On a des challenges incroyables. On a des petits clients. On a des énormes clients. On fait de l'open source. On travaille sur du machine learning. À peu près tout ce qu'on fait est hors du commun. C'est pas un site, tu sais, tu fais pas un site web transactionnel. C'est pas facile. Ouais. Des vrais défis d'ingénierie C'est vraiment pété là. Puis on a des gros besoins d'infrastructure, des gros besoins d'innovation, de machine learning. Puis on se bat contre Google puis Microsoft là. Tu sais, on est eux autres qui sont assez fous pour faire ça. Fait que c'est vraiment le fun. C'est une ambiance, je te dirais, vraiment motivante. Puis ça vient aussi avec ses risques. Puis moi, ce que je dis toujours aux employés, c'est que je peux pas te garantir que ça va être un succès. Ok, on s'essaye, on a du fun. Mais je peux te garantir, par contre, que ça va être l'expérience de travail la plus enrichissante que tu vas avoir. Parce que WordPress, c'est un blank canvas. Tu peux devenir qui tu veux. Si tu veux devenir VP Engineering, tu peux. Si tu veux devenir CMO, tu peux. Même si t'es meilleur CEO que moi, prends mon rôle. On n'a pas d'ego. C'est ça qui est le fun. C'est que tu peux grandir, tu as un potentiel que tu n'aurais pas dans une autre grosse compagnie.
Mais là, tu le dis, tu te bats contre les géants, là. Comment tu te bats contre les géants? T'sais, c'est du David contre Goliath continuellement. Ça doit pas être facile si ces géants-là arrivent et envoient des messages continuellement à tes développeurs pour les engager. Essaye de prendre tes clients, peu importe quelles initiatives qu'ils font de leur côté pour te mettre des bâtons dans les roues. Comment tu te défends? Comment tu te bats contre ces géants-là?
Ben, tu sais, il y a l'aspect commercial puis il y a l'aspect des ressources humaines. Sur l'aspect commercial, ben, tu sais, c'est, mettons, Google, qui est un compétiteur direct, a environ 5000 personnes qui travaillent sur le produit qui compétitionne WordPress. À 5000 personnes, tu peux pas changer du jour au lendemain ta direction. Fait que quand tu as une organisation de même, nécessairement, tu peux pas prendre autant de risques, tu peux pas bouger aussi rapidement. Puis tu as beaucoup plus de clients, tu as des contraintes, tu as vraiment gros de contraintes. Puis nous autres, c'est ça, on est petit, on est juste 25 en ce moment, ben un peu plus, là, je pense qu'on est rendu à 27, 28, mais tu sais, on n'a pas autant de contraintes, on est capable de changer de cap super vite.
Fait que ça, c'est plus agile.
On est super agile, puis tu sais, ironiquement, tu sais, nous autres, on attend toujours les papiers de recherche, tu sais, pour qu'ils sortent parce qu'on voit les contraintes technologiques. Puis on fait comme, hey, ça serait le fun qu'il y ait un papier qui sorte là-dessus. Puis ironiquement, Google étant un de nos plus gros compétiteurs, à chaque fois qu'on dit quelque chose, là, tu sais, on joke avec ça, mais on a un Google Home dans l'office, puis on pense qu'il nous écoute, puis qu'il envoie tout ça à l'équipe de recherche de Google, parce qu'à chaque fois qu'on dit, hey, ça nous prendrait un papier de recherche là-dessus, parce que tu sais, nous autres, on n'a pas la capacité de faire la recherche, mais comme c'est ça le gros problème, quelques mois plus tard, Google sort un papier de recherche. Nous, ça nous prend 2-3 semaines, on le met dans notre produit, on l'intègre. Eux autres, ça fait un an, ils l'ont pas encore mis. Tu sais, fait que ça nous permet vraiment d'aller plus vite. Puis dans un sens, c'est notre compétiteur, mais c'est notre plus gros allié aussi. C'est eux autres qui font la majorité de la recherche là-dedans. Tu sais. Puis tu sais, au niveau des employés, je veux dire, tu vas travailler chez Google, tu es dans une équipe de, je sais pas, tu sais, t'es un parmi 20 000 programmeurs. Tu sais, par exemple, à Montréal, tu travailles sur Google Chrome. Tu vas probablement passer un an de battre pour changer le nom d'un élément dans le menu déroulant, là, tu sais. Fait que c'est, tu travailles pas sur la même ampleur de problème. Si je peux dire.
Je comprends.
T'as pas le même impact.
Je comprends. Puis, donc, au final, c'est ça que t'es capable de dire à ces employés-là, à tes employés actuels ou même les prochains que tu veux engager. Les défis vont être différents. Tu vas avoir plus de responsabilités. Puis là, également, au niveau global, comment ça se fait au niveau, peut-être, de la pool d'investissement? Donc, souvent, des organisations qui sont encore des startups, qui font des certaines rondes de financement, vont offrir des certaines actions aux employés. On appelle ça une pool, là, littéralement. Comment ça se déroule? Est-ce que c'est une approche que vous utilisez également chez WordPress ou vous n'êtes pas encore là?
Oui, effectivement. Nous autres, on a 15% de la compagnie totale qui va être donnée au cours de l'existence de la compagnie, là, qui va être donnée aux employés. Donc, on en a une partie qui est déjà donnée.
C'est beaucoup, 15%.
C'est beaucoup, 15%, mais c'est ce qui se fait à Silicon Valley. C'est ce qui... Puis tu sais, nous autres, on est Québécois, mais si on veut être capable d'attirer du talent international de calibre international, l'employé à Québec a le choix d'aller travailler pour une compagnie à Silicon Valley puis d'avoir un option pool qui est 15%. Ils s'attendent à avoir la même affaire à Québec. Je pense qu'on est une des seules compagnies à Québec qui offre ça. Là. Je connais pas le détail des programmes de pool option des autres compagnies, mais tu sais, je pense qu'on était une des premières compagnies v'là 3 ans à instaurer un pool de 15%. Puis je pense que c'est juste normal, c'est juste la norme. Je veux dire, c'est c'est au final, c'est pas moi qui fais toute la compagnie, là, c'est tout le monde dans la compagnie qui participe. Puis pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait aussi le upside.
Intéressant. Donc ça, c'est un autre argument. C'est un autre argument que tu es capable de mettre dans tes discussions avec ces futurs employés-là. J'aimerais que tu me parles un petit peu, comment tu vois le futur un petit peu pour pouvoir, à terme peut-être, continuer à compétitionner ces géants-là. Comment vous allez vous définir? Comment vous voyez un petit peu le positionnement de BudPress au cours des prochaines années? Est-ce qu'il y aura un changement à prévoir ou on garde la même direction?
On garde pas mal la même direction. Je te dirais au niveau stratégique, il y a quelques affaires qui vont changer. Possiblement, comme je disais, on va peut-être aller dans le market en temps et lieu, mais je pense que ce qui est le plus important dans une stratégie, c'est notre positionnement. Le fait qu'on soit open source, puis qu'on ait la communauté, puis qu'on bâtisse, dans le fond, l'infrastructure, c'est pas quelque chose que les géants peuvent copier du jour au lendemain. Ils sont pas capables de créer un following, ils sont pas capables de... Tu sais, c'est un brand, BudPress, dans un sens.
C'est ça.
Fait que c'est notre stratégie, faut la garder. On a réussi à créer, si on veut, un brand. On a une communauté de développeurs qui nous aiment. On donne 100 000 là-dessus. Plus que 100, une centaine de milliers, puis c'est ça. Fait que c'est important de garder le cap là-dessus. Mais faut être capable de capturer. C'est des parts de marché qui sont super importantes parce que ce type de software-là, tu vas le provisionner pour 5 à 10 ans. C'est pas un software que tu peux changer du jour au lendemain. C'est pas comme Trello ou Instagram où est-ce que si tu décides d'arrêter de l'utiliser, t'arrêtes. Non, tu sais, c'est les GE puis RBC, ils sont là for the long run. Fait que le plus rapidement tu es capable de capturer les parts de marché, le mieux c'est. Fait que donc, pour nous autres, c'est vraiment ça.
Intéressant. Je terminerai une petite question personnelle, Sylvain. Est-ce que même si tu as mis beaucoup de ton temps sur les rondes de financement et beaucoup de travail en ce moment, est-ce que tu as un peu de temps pour lire des livres d'affaires? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont marqué ton attention?
Oui. Mon Dieu, je lis beaucoup de livres. Un peu moins en ce temps-ci, là, mais ce mois-ci, j'ai lu ou relu 4 livres Working Backwards, qui est un livre sur les insides d'Amazon. Dans le fond, c'est deux personnes qui étaient dans les débuts d'Amazon. En fait, sont restées là, je pense, 18 ans. Donc, ils décrivent pas mal tous les processus, là, comment que ça fonctionne chez Amazon pour à peu près toutes les sphères de la business. Vraiment, vraiment intéressant. Un deuxième qui s'appelle Ask Your Developer, par Jeff Lawson, qui est le fondateur de Twilio, puis le CEO. Vraiment, vraiment intéressant aussi pour notre type de compagnie qui s'adresse aux développeurs. Des livres un peu plus business aussi, mais que j'aime relire juste parce que c'est business, mais c'est entertaining à la fois. Disrupted, je sais pas si tu as eu l'occasion de le lire, mais je te le recommande, c'est hilarant. Puis Bad Blood, qui est...
Lui, j'ai pas lu.
L'histoire sur Theranos. Et je l'anticipe, là, mais il est censé avoir un film qui sort sur ce livre-là. C'est un livre que j'ai lu peut-être 2-3 fois, puis que j'ai vraiment hâte d'écouter le film, mais je te le recommande aussi. Là. C'est sur la business, mais c'est à la fois entertaining et éducatif.
Intéressant, je vais me faire une petite note là-dessus. Est-ce que tu écoutes des podcasts aussi?
Oui. À chaque jour, j'essaie d'écouter au moins un podcast à chaque jour, là, au moins une heure par jour. Software Daily, qui est dans mon domaine, évidemment. Thunder Real Talk, qui est un podcast par GGV Capital. Vraiment de la haute qualité là, pour les founders. J'écoute beaucoup Changelog aussi, qui est pour les développeurs. Masters of Scale par Reid Hoffman. Je pense que là, ils en font plus beaucoup, mais... Puis Joe Rogan Experience, évidemment, quand que je veux écouter du quoi d'un peu plus relax.
Ah, il est assez exceptionnel, Joe Rogan. Il est capable d'avoir des conversations de 2-3 heures avec n'importe quel invité. Des fois, je l'écoute, puis on dirait qu'il est capable d'avoir une opinion, une culture générale sur à peu près n'importe quel sujet dans le monde. C'est assez exceptionnel d'être capable de faire ça. Là. Il peut arriver à avoir une discussion avec Elon Musk. Bon, bien entendu, il n'y aura peut-être pas nécessairement la même notion, la même compréhension que Elon Musk sur certains sujets. D'ailleurs, personne dans le monde souvent est capable de le faire, mais bon, il peut avoir une conversation avec lui. La journée d'après, il va être avec un boxeur. La journée d'après, il va être avec un politicien. La journée d'après, il est avec Matthew McConaughey. Puis, il entretient des conversations de 2-3 heures. C'est assez exceptionnel d'être capable de faire ça.
Ah, effectivement, il est, c'est tout qu'un personnage, je peux dire ça de même. Oui, très, très le fun à écouter, puis souvent, il y a vraiment de la bonne information qui sort de là aussi.
Ah, ben oui. Il y a une opinion tranchée sur un paquet de sujets, donc des fois, ça fait même peur à certaines personnes. Hein. Il y a eu des petits backlash récemment, mais bon. Je terminerai routine. Comment que Sylvain se tient en forme? Comment qu'il est capable de rester concentré dans toutes ces aventures-là qui se déroulent présentement avec l'organisation?
Ben là, c'est sûr qu'avec la COVID, c'est un peu plus dur d'aller au gym, là. Fait que ça, je fais plus ça, mais je me réveille vers 7-8 heures, je mets mes AirPods, j'écoute un podcast, un livre, je prends mes suppléments, mes vitamines, puis mon café, évidemment, je prends une douche froide. Une douche froide, c'est vraiment bon pour...
OK. Fait que t'es rendu que t'as pris l'habitude des douches froides. Intéressant.
Ouais, c'est super bon pour la motivation. Là, souvent, il y a personne qui se réveille et qui dit « Hey, j'ai le goût de me geler le cul aujourd'hui. » Mais ça, c'est la première chose que tu fais, c'est quelque chose que ça ne te tente pas de faire. C'est une bonne habitude à avoir, puis ça t'en remet les esprits aussi au bon endroit. Là. Fait que j'aime bien faire ça. Puis après ça, je prends un petit 5 à 10 minutes, je priorise ma journée, puis après ça, je vais faire du intermittent fasting jusqu'à 18 heures. Évidemment, je vais consommer beaucoup d'eau et de caféine, mais je ne mange pas de la journée.
Intéressant. Moi, j'ai commencé à le faire. Je le fais présentement de à peu près 8 heures le soir jusqu'à midi 13 heures. Là, donc, bon, on pourrait dire ça le classique. Tu l'as changé. Donc, c'est-à-dire, tu vas manger jusqu'à quelle heure le soir? Puis c'est quand que tu mangeras pas, juste pour bien comprendre?
ça a évolué. Là, j'ai commencé en 2017, justement, en même temps que j'ai commencé BotPress. Depuis ce temps-là, j'ai pratiquement pas mangé les journées. Puis là, ça s'est transformé en one meal a day. Je suis pas capable de dire que je vais rester avec ça. C'était vraiment par manque de temps. Honnêtement, c'est triste, mais je ne mangeais pas parce que j'avais pas le temps de manger. Je vais probablement recommencer. Là, ce que j'ai commencé à faire, c'est me prendre des Soylent. Là, c'est des repas. C'est des repas un peu pour geeks, si tu veux. Là. C'est une boisson qui a été créée par un programmeur à Silicon Valley qui avait pas le. Il n'avait pas le temps de manger non plus, puis il s'est dit, en fait, le midi, tu manges par obligation. Tu manges pour avoir des nutriments, tu manges pour avoir de l'énergie, tu manges pas par plaisir. Tandis que pour moi, le soir, je mange par plaisir. Fait que je me suis dit, tant qu'à manger par obligation, pourquoi est-ce que je n'ingérerais pas mes nutriments par pure obligation, en fond? Fait que je vais juste comme prendre une boisson qui contient 25% de tous mes nutriments, tous mes besoins nutritionnels dans ma journée. J'ai commencé à faire ça. Je sais pas si je vais continuer. C'est un peu bizarre, pour être honnête. Juste le fait d'en parler aujourd'hui. Mais je trouve ça intéressant. Évidemment, quand tu fastes, à un moment donné, tu manques, tu sais, de sucre dans ton sang, puis ça affecte ton humeur. Vers 17 heures, je commence déjà à être un petit peu moins de bonne humeur. Mon but était, durant la ronde de financement, j'ai commencé ça parce que je voulais pas péter un plomb dans un meeting avec les investisseurs. Donc, j'étais comme, OK, il faut que je garde mon cool. Fait que je vais m'injecter volontairement comme du glucide dans le sang, mais j'ai pas le temps de manger. Fait que je vais juste, en deux meetings, chugger un Soylent ou un Ensure. Donc, ça a commencé de même. Puis, je pense que ça, pour vrai, ça... Et comment dire, mais tu sais, manger, ça a son avantage là, en termes de, tu sais, d'humeur puis de stabilité. Fait que c'est, je vais probablement là réverser mon intermittent fasting pour retourner à, j'ai jamais déjeuné de ma vie. Je vais probablement juste plus déjeuner puis recommencer à dîner puis à souper.
Intéressant. Ben ça a du bon comme c'est pas possible le intermittent fasting. C'est un truc que j'étais excessivement sceptique au départ, Sylvain. Moi, ça, j'ai toujours aimé grandement déjeuner le matin, mais il y a beaucoup de gens qui m'en parlaient autour de moi, puis j'ai commencé à lire, j'ai commencé à m'informer un petit peu autour de ça, puis j'ai commencé finalement, puis au final, c'est peut-être un petit peu compliqué les premières semaines, les premiers jours, mais après, ton corps s'habitue, puis on dirait que t'as besoin de 2 repas par jour maintenant, puis t'es correct avec ça.
Exact. Puis tu sais, moi, ça a commencé, en fait... Au tout début, tu sais, il y a 3 ans, j'avais commencé ça parce que moi, j'ai eu cancer il y a quelques années. Puis, j'essayais de rechercher, je lisais des papiers de recherche sur, OK, comment faire en sorte que je minimise mes chances, tu sais, de relapse. Comment est-ce que je peux mettre les chances de mon côté en termes de pas mourir du cancer? Fait que j'ai commencé à lire des papiers. Puis, c'est ça, j'ai trouvé des papiers sur, tu sais, ils ont fait du intermittent fasting sur des souris, puis tout. Puis, les résultats sont vraiment concluants sur des souris. Fait que j'étais comme, ben, ça fera pas de mal, j'imagine, pour moi de l'essayer. Puis j'ai vu des bénéfices quand même vraiment importants. Puis récemment, il y a des papiers qui sont sortis sur l'intermittent fasting, puis sur le, dans le fond, le, sur le cancer, sur les traitements, l'efficacité des traitements du cancer. En fait, c'est plus efficace quand tu fais du intermittent fasting. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai commencé. Mais oui, ça a plein d'avantages.
Ouais, non, intéressant. Il y a des bons livres qui ont été écrits là-dessus que j'essaie de retrouver d'ailleurs que j'ai lu récemment littéralement par rapport à ça qui disait, je pense que c'est Chris Wark qui a écrit le livre Beat Cancer Daily. Lui il a eu le cancer puis il s'est mis un petit peu à faire ça, il fait des fasts. Où est-ce qu'il va juste boire de l'eau des fois pendant 5 jours de temps. Puis bon, je connais pas assez au niveau scientifique à quel point c'est quoi les impacts de ça, mais la seule chose que j'ai à dire, c'est que ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup, ça me fait me poser des questions sur un paquet de choses, parce que oui, ça a du bon pour votre corps. N'importe quelle personne va le dire que ça a du bon pour le corps de faire du fasting. À quel point, ça c'est, je pense que ça reste une question pour chaque personne, mais ça a du bon de faire du fasting comme ça.
Exact.
Sur cette discussion qui est passée d'une discussion à faire à une discussion davantage de nutrition, ce qui est bien correct. Sylvain, je pense que bon, vous êtes à la recherche, tu disais, tu as 41 postes présentement. Donc, si les gens voudraient en savoir un petit peu plus sur tout ça, où est-ce qu'ils peuvent aller en apprendre davantage sur BotPress et les postes d'ouvert?
Ouais, donc le monde peut visiter notre site web botpress.com, botpress.com. Il y a la page carrière là dans le footer. Sinon, juste taper Sylvain Perron sur Google ou sur LinkedIn puis m'envoyer un message. On recherche des gens talentueux. On a 41 postes d'ingénierie d'ouvert, donc.
Bon, ben, je pense qu'il y a en masse de postes si des gens s'y retrouvent là, pour aller discuter avec toi. Sylvain Perron, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était très plaisant et je suis très heureux de voir qu'une organisation de la ville de Québec a le vent dans les voiles comme ça, une grande communauté de développeurs qui vous suivent, des clients Fortune 500. C'est exceptionnel tout ça. Donc, merci de ton temps, Sylvain. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Comme vous aurez pu le constater si vous écoutez plusieurs de nos épisodes, le volet technologique est au cœur des discussions sur hypercroissance. Maintenant, je vous pose une question à vous qui nous écoutez semaine après semaine. Quel type d'entreprise aimeriez-vous entendre sur le podcast? On est toujours à la recherche d'idées pour faire évoluer notre contenu et on adorerait vous lire par email. Vous trouverez d'ailleurs mon adresse dans les notes de l'épisode. Également, on a lancé nos nouveaux médias sociaux pour Hypercroissance en créant des pages totalement distinctes à J7 Media. On vous invite donc à nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram afin de voir de courts extraits vidéo de tous nos podcasts depuis le début. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.